Grande Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour. Le réchauffement climatique et la pandémie ont montré combien nos villes européennes très minérales sont devenues impossibles à vivre alors que 75% de la population européenne est désormais citadine. Impossible à vivre, c'est le cas de Milan, par exemple. La grande ville du nord de l'Italie, située dans la plaine du Pô, une région enclavée, loin des influences maritimes, Milan est l'une des villes italiennes où la pollution de l'air est la plus forte. Pour tenter d'y remédier, l'agglomération veut planter 3 millions d'arbres en 10 ans, c'est le projet Foresta Mi qui a commencé en septembre 2019, Franceline Beretti.
Des problèmes sérieux puisqu'ils affectent directement la santé des Milanais. Le climat de la capitale lombarde s'est radicalement transformé. En 100 ans, les températures ont augmenté de 2 degrés et les scientifiques s'attendent à 2 degrés supplémentaires d'ici 2050. Autrement dit, la ville pourrait devenir invivable de juin à septembre, avec une mortalité accrue pour les plus fragiles et les plus pauvres. L'agglomération milanaise est aussi une des plus polluées en Europe. Certains chercheurs se sont demandé si le Covid n'avait pas été particulièrement meurtrier dans le nord de l'Italie parce que le virus s'attaquait à des poumons déjà fragilisés par la pollution. Autant de problèmes auxquels les pouvoirs publics veulent répondre avec Foresta Mi et ses 3 millions d'arbres plantés d'ici 2030. L'idée est de créer des îlots de fraîcheur, car les espaces verts sont plus frais, et d'augmenter la capacité d'absorption des sols.
Et où en est le projet, Franceline ?
Presque 2 ans après son lancement, environ 300 000 arbres ont été plantés dans le Grand Milan. Un site internet recense les nouvelles plantations dans chaque commune, propose des photos, des cartes. Il veut impliquer les citoyens, les écoles. Il suffit de s'inscrire pour pouvoir mettre en terre son petit arbre. Pour les entreprises, c'est une belle publicité. Le site remercie Armani, Bulgari, Gucci, Levi's et d'autres grandes marques. En plus de l'image, il y a des avantages fiscaux pour les fondations qui financent. Il fallait peut-être plus que l'argument écologique pour motiver l'ensemble de la société. Le bilan se verra dans quelques années. Il faut que les arbres survivent, grandissent. On verra alors si cette belle opération a dépassé le stade de la communication.
Alors que la ville ne cesse de grignoter la campagne et les terres agricoles, certains militent pour les potagers urbains qui permettent d'assurer aux villes une production locale plus soucieuse de l'environnement et qui permettent aussi de reconnecter les citadins à la nature. Exemple à Séville, dans le sud de l'Espagne, le parc de Miraflores, un potager urbain de 3 hectares qui a vu le jour au milieu des barres d'immeubles. Un reportage de Frédéric Lebel.
C'est au bout du parc de Miraflores que se trouve le potager du jardinier des Mûriers. Pour y accéder, on franchit un petit pont. Sous le soleil, le site est idyllique. Emma est affairée sur sa petite parcelle de 70 mètres carrés, presque trop grande pour sa petite famille.
Ici, on a des poireaux, un peu de maïs, des tomates, des aubergines, des courgettes et puis un peu de haricots et de fraises. Et tout cela, c'est pour la consommation familiale. On est 4. Mais bon, il y a bien trop pour nous. Donc on en donne à mon beau-frère, à mon beau-père. Toute la famille élargie bénéficie de la production. Tous les jours, il y a au moins quelqu'un de la famille qui vient. Si ce n'est pas moi, c'est mon mari. Ici, il y a au moins 2 heures de travail par jour. Nous, on a du temps, mais comme vous voyez, ça dépend des parcelles. Par exemple, là-bas, on voit une parcelle qui est moins bien entretenue. Mais bon, c'est un couple qui vient d'avoir des jumeaux, alors ils viennent juste le week-end. Et c'est sûr que ça se voit.
Tout autour, les barres d'immeubles rappellent que la ville n'est pas loin. Le parc de Miraflores et ses jardins potagers sont nés de la volonté des citoyens. Le président de l'association, Manuel Fernandez Jiménez, est un des pionniers. Il cultive son carré depuis plus de 30 ans.
C'était un mouvement vecinal.
Au départ, c'est vraiment un mouvement qui est né dans le quartier. Les gens qui sont venus vivre dans ces tours, ils venaient de la campagne. C'était l'époque de l'exode rural. Mais ils avaient l'habitude de travailler la terre. Alors ils ont commencé à occuper le terrain avant la création du parc et à le cultiver.
Avant 1989, Miraflores était un dépotoir entouré d'immeubles fraîchement sortis de terre. Trois décennies plus tard et après bien des combats, la mairie est désormais partenaire du projet. Isabel Garcia Gomez est la responsable du programme potager urbain de Séville.
Au départ, c'est vraiment un potager qui a une histoire singulière parce qu'ici, il y a eu une lutte, une mobilisation des citoyens pour que tout ce terrain ne soit pas une énorme déchetterie. Il y a vraiment eu une mobilisation de tout le voisinage. Et c'est ici qu'a été amorcée toute une politique sociale pour développer les potagers à Séville.
Aujourd'hui, Séville compte 12 potagers urbains qui ont puisé leur inspiration dans le projet Miraflores.
Là, j'ai des petits semis de concombres et d'aubergines et il faut beaucoup les arroser. Comme ça, ça pousse avec beaucoup de force pendant la nuit. Et après, il va falloir les transplanter une par une.
Autour de Manuel, qui entrepose ses affaires dans un petit cabanon, on s'affaire et on s'entraide.
Moi, je ne cultive pas de la tomate hybride. J'ai mes propres graines anciennes que j'ai héritées de mes ancêtres et je les cultive et je les transmettrai aux générations suivantes. C'est toujours la même graine. Ça a moins de rendement, mais ça n'a rien à voir. C'est de la tomate locale.
Ici, l'ensemble de la production est destiné à la consommation familiale. La cotisation annuelle n'est que de 20 euros. Mais il faut s'engager à bien entretenir son jardin, faute de quoi il peut être attribué à un autre. La liste d'attente est longue. Cultiver, pour Manuel Fernandez Jiménez, petit-fils d'agriculteur, mais fils d'ouvrier, c'est aussi éduquer la nouvelle génération.
Mes enfants, ils aiment beaucoup et surtout, c'est une façon de montrer à la jeune génération que les oranges, ça pousse pas par terre, mais dans les arbres. Et que les tomates, ça pousse pas dans les arbres, mais au sol. C'est vraiment un moyen de se connecter à la nature dans un milieu urbain.
L'histoire de Miraflores est édifiante à plus d'un titre. Sur cette terre andalouse, célèbre pour ses cultures intensives et sous serre, le potager a des allures d'ovni. Isabel Garcia Gomez.
Ici, c'est un peu le contre-exemple dans la région. On veut pouvoir montrer que c'est important de consommer localement, qu'on peut aussi cultiver sans pesticides, naturellement et surtout local, directement du producteur au consommateur. On peut cultiver différemment. Ici, on n'a besoin que d'eau, de soleil et de beaucoup d'amour.
Pour transmettre cet amour de la terre, Isabelle coordonne une équipe de 7 personnes. Elle travaille dans une cinquantaine d'écoles de la ville pour parler nature et écologie autour d'un petit potager. Ce jour-là, Isabelle est avec une classe de fin d'élémentaire. Pour parler de pollinisation, elle a installé une petite maison en bois. C'est l'hôtel des insectes. Il y a aussi un bac à compost où chaque enfant peut venir déposer les épluchures de fruits et de légumes de la maison. Juste derrière le bac à compost, quelques rangées de légumes du potager. Un apprentissage à l'écologie et à une alimentation équilibrée pour Ariana, 9 ans.
Moi, j'aime bien planter, arroser et puis j'aime bien aussi ramasser les légumes. Avec le Covid, c'était plus difficile. Mais avant, on pouvait ramener des laitues, des salades à la maison.
Tu aimes bien les manger chez toi après ?
Non.
Il faut du temps, de l'eau et beaucoup de journées ensoleillées pour que les petits maraîchers apprennent à aimer la terre et les légumes.
Aux Pays-Bas, pour lutter contre l'addition des abeilles, plusieurs municipalités ont opté pour une solution originale. Végétaliser les toits des arrêts de bus, jusque-là tout juste bon à protéger les usagers de la pluie. Antoine Moutot.
Au premier coup d'œil, difficile de voir la différence avec un abribus traditionnel. Mais si vous levez un peu la tête, vous verrez sur le toit un lit de petites plantes et de fleurs prêtes à accueillir abeilles et autres insectes d'habitude malmenés dans les rues goudronnées des centres-villes. Tout a commencé à Utrecht, quatrième plus grande ville du pays. Il y a un peu plus de 2 ans, la municipalité a décidé de recouvrir de plantes mellifères 316 de ses arrêts de bus. Face à l'inquiétant déclin des populations d'abeilles, la ville dit vouloir montrer l'exemple et espère convaincre ses administrés de végétaliser à leur tour les toits de leur maison, installer des petits hôtels à abeilles dans leur jardin ou encore planter davantage de plantes mellifères. Même avec des abribus, on peut changer les choses, avait déclaré l'adjoint au maire d'Utrecht, chargé de l'espace public, lors de l'inauguration du premier abribus de ce type. Les toits végétalisés ne permettent pas seulement de soutenir les abeilles et la biodiversité, explique la ville. L'objectif est également de stocker l'eau de pluie, faire diminuer la chaleur dans les rues en été, mais aussi de capter les particules fines. Et Utrecht ne s'est pas arrêté là. La mairie a également fait végétaliser le haut d'un immense panneau publicitaire le long d'une autoroute. Depuis, de nombreuses villes ont décidé de suivre l'exemple d'Utrecht, comme par exemple Arnhem dans l'Est, Sittard dans le Sud ou encore Zaandam au nord d'Amsterdam. Et surtout, l'initiative néerlandaise suscite beaucoup d'intérêt à l'étranger. La végétalisation des abribus commence à prendre forme un peu partout en Europe.
La Pologne reste le leader européen de la volaille. L'industrie s'adapte au marché avec des modes de production qui changent petit à petit. Le bio est en forte augmentation. L'élevage en plein air de poules pondeuses se développe. Sarah Bakaloglou s'est rendue dans les fermes d'un des leaders de la production d'œufs en Pologne qui a déjà amorcé le changement.
Alors ici, on se trouve dans la partie de la ferme où des poulaillers en plein air sont en construction. Et on va aller voir comment vivent les poules dans un de ceux déjà construit.
D'ici quelques mois, deux poulaillers en plein air vont s'ajouter aux quatre déjà en place. Nous sommes ici dans la ferme de Robiu Misgier, Tomasz Misgier, près de Poznan, dans l'ouest de la Pologne, avec Philippe Misgier, propriétaire avec son père de l'exploitation, et son cousin Czestow qui nous fait rentrer dans la grange ouverte sur l'extérieur.
Il y a 15 000 poules ici. Elles ne sortent pas beaucoup à cause de la chaleur. On voit vraiment l'élevage de manière différente selon la génération. Nos parents vivent encore dans le passé. Ils ont en tête les années 80-90. Nous, on regarde davantage vers l'avenir. La question de ce qu'on va gagner est complétée par la question du bien-être animal.
Tous les jours, 15 000 œufs sont récoltés dans ce poulailler en plein air. En tout, l'entreprise Misgier produit près de 2 millions d'œufs par jour. En Pologne, c'est un des leaders de la production d'œufs, notamment pour les systèmes alternatifs à l'élevage en cage. Car de plus en plus, l'exploitation s'en détourne, un choix influencé par la demande des consommateurs et les engagements d'entreprises polonaises. Nous retrouvons Philippe Misgier dans les bureaux de l'entreprise.
Le premier poulailler qu'on a transformé en poulailler en plein air, c'était en 2017. Et depuis cette date, on a continué notre conversion pour atteindre le 100% plein air et écologique. On veut renoncer à la production 100% en cage, notamment parce que l'un des plus grands distributeurs de Pologne a dit que l'an prochain, il ne voudrait plus d'œufs en cage dans ses rayons. Cela veut dire qu'on ne pourra plus vendre ses œufs. Et c'est pour cela qu'on fait tout pour avoir autant de systèmes alternatifs que possible rapidement.
Car fin 2020, elles étaient déjà 140 entreprises, chaînes de magasins, hôtels, restaurants, à annoncer ne plus vouloir d'œufs produits en cage. En quelques années, la ferme Misgier est passée du 100% cage à 50%, l'autre moitié étant des modes alternatifs, le plein air, le bio, mais aussi l'élevage au sol, un modèle intermédiaire entre la production en cage et le plein air. Et d'ici la fin de l'année, l'élevage en cage devrait être réduit à 35%.
Le marché a beaucoup changé en 40 ans. Il y a plus de 10 ans, dans toute l'Europe, on avait de la production en cage. Et depuis 10 ans environ, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique ont commencé à consommer des œufs produits de manière alternative. Sauf qu'en Pologne, il y a encore 2 ans, la quasi-totalité de notre production était de l'élevage de poules en cage. Donc, quand d'autres pays sont passés à la consommation d'autres types d'œufs, ça fait beaucoup moins d'acheteurs.
En Pologne, la transition vers de l'élevage en plein air n'est pas sans défi car ce n'est pas rentable, explique la famille Misgier, et cela nécessite d'acquérir beaucoup de terres en extérieur pour les poules. Or, aucune aide n'a été reçue par l'État. Difficile aussi de compter sur les exportations, même si l'entreprise exporte dans plusieurs pays, notamment sur le continent africain ou au Moyen-Orient. Des œufs exportés qui sont pour la majorité destinés à l'industrie de transformation, moins regardante sur le mode de production. Tomasz Misgier.
Le marché des acheteurs, hors l'Union européenne est en train d'être récupérée par l'Ukraine depuis 3 ans environ, où s'est développée une importante industrie de la volaille avec des coûts de production moindres. Les pays africains, ou d'ailleurs hors Union européenne, achètent là où c'est le moins cher et à 90% des œufs en cage. Ils ne sont pas intéressés par ce qui peut être du plein air ou de l'écologique. Tout cela réduit nos exportations.
Mais les associations de bien-être animal restent optimistes. Si aujourd'hui en Pologne, 80% de la production d'œufs reste de l'élevage en cage, la Chambre nationale des producteurs de volailles estime que ce chiffre pourrait tomber à 60% dès 2025.
L'onde de choc du mouvement Black Lives Matter se ressent toujours un an après dans les sociétés occidentales, notamment dans les anciens empires comme le Royaume-Uni. Ce mouvement pour la justice raciale interroge particulièrement la société britannique. Notre correspondante à Londres, Marie Billon, a lu Empireland, un livre de Satnam Sangera, journaliste au Times. Il explique que bien des aspects de l'empire, Marie, restent aujourd'hui dans l'ombre.
D'abord, il avoue que même s'il est un fils d'immigrés indiens sikhs et qu'il a fait des études supérieures au Royaume-Uni, il ne connaissait pas vraiment grand-chose à l'Empire. Alors il se demande pourquoi. D'abord, dit-il, parce que dans le système éducatif, on n'en parle pas beaucoup. C'est en partie un choix politique, mais c'est aussi parce que l'Empire, ça n'est pas facile à étudier. Ce n'est pas une entité politique avec un début et une fin. Il a vu le jour au XVIe, XVIIe siècle par le hasard des explorations maritimes et commerciales. La première phase de l'Empire était, on va dire, brouillonne, sans structure ni but politique. La deuxième phase, qui débute à la fin du XVIIIe siècle, était plus organisée. Mais là encore, chaque colonie était traitée différemment avec des gouverneurs qui étaient les maîtres chez eux. Le ou la monarque n'avait qu'une influence relative. On ne peut donc pas étudier l'Empire comme une entité. Mais c'est surtout, dit l'auteur, que le Royaume-Uni n'est pas prêt à tout assumer. Les Britanniques ont commis des atrocités, des massacres et activement participé à la traite d'esclaves. Entre 1660 et 1807, les navires britanniques ont par exemple emmené 3 millions d'esclaves d'Afrique en Amérique. Mais on ne se souvient encore aujourd'hui quasiment que du fait que Londres a mené la voie pour l'abolition de la traite, puis de l'esclavage.
Et puis Marie, vous l'avez dit, Satnam Sangera est journaliste, ce n'est pas un militant, et il arrive à montrer qu'il y a différentes perspectives aujourd'hui, mais à l'époque aussi.
Oui, par exemple, sous la reine Victoria, la première qui est devenue officiellement impératrice des Indes en 1876, il y avait de fortes critiques des comportements et atrocités commises par les Britanniques. La reine elle-même évoque des pratiques moyenâgeuses. Mais aujourd'hui, dit l'auteur, on protège la mémoire de l'Empire, car on a l'impression que le critiquer, c'est remettre en cause une grande réussite du Royaume-Uni, ce qui équivaut à vouloir réécrire l'histoire ou annuler l'histoire, comme déboulonner les statues, alors que ce sont les statues qui coupent court au débat, dit Satnam Sangera. Elles imposent le respect par leur taille et leur présence et n'éduquent pas. Et comme en plus les Britanniques chérissent autant leurs échecs héroïques que leur succès, l'Empire reste difficilement attaquable aujourd'hui.
Satnam Sangera parle aussi de l'héritage très concret de l'Empire dans la société britannique d'aujourd'hui, Marie.
Oui, alors il y a par exemple le côté presque anecdotique. Le gin and tonic, la boisson alcoolisée toute britannique, outre la bière, a gagné en popularité car la quinine dans le gin protégeait de la malaria. Mais plus sérieusement, dit l'auteur, il y a des héritages lourd. Le racisme made in UK, dit-il. On continue aujourd'hui encore à mieux tolérer les hindous et les sikhs plutôt que les musulmans ou les personnes noires, car il y a cette idée fondamentalement raciste que les Indiens sont plus industrieux. La richesse du pays dépend aussi beaucoup de l'Empire. L'économie britannique a décollé avec l'Empire. La City a été créée pour gérer les flux. Nombre de manoirs ont été construits avec l'argent du commerce d'esclaves, notamment. Les musées britanniques sont encore remplis aujourd'hui d'œuvres d'art volées, voire de dépouilles humaines exhibées. On collectionnait par exemple beaucoup les crânes. La plupart de ces œuvres sont dans les réserves des musées. Elles ne sont même pas exposées.
Cet héritage de l'Empire, il a plusieurs facettes.
Oui, effectivement. Par exemple, la société britannique est très multiculturelle, car la couronne a dominé tant de territoires et que chacun avait droit, en théorie, à la nationalité britannique. Beaucoup ont même été invités à venir au Royaume-Uni pour reconstruire le pays après la Seconde Guerre mondiale. Mais ceux qui se plaignent de ce multiculturalisme actuel oublient qu'il y avait des gens de couleur en Angleterre depuis très longtemps, même pendant les Tudors au XVIe siècle. Et puis, un dernier exemple, parce que c'est dur de parler du Royaume-Uni sans parler du Brexit, les Britanniques pensent toujours en termes d'empire. Pire, dit Satnam Sangera, quand on critique l'Union européenne, on dit que le Royaume-Uni ne doit pas devenir une colonie de l'UE.
Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. L'émission était financée aujourd'hui par le programme IMCAP de l'Union européenne. Vous retrouvez le podcast d'Accent d'Europe sur RFI.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt.